Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'horloge biologique logée dans le cerveau, c'est un petit peu le chef d'orchestre chargé de diriger la machinerie de notre organisme. Une horloge interne associée à d'autres chronomètres propres aux organes, un système complexe, des cellules, elles aussi, réglées par un cycle. Et toutes ces différentes pendules se synchronisent sous l'effet de la lumière, notamment. C'est donc de cette horloge biologique dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé. Alors, cela peut sembler abstrait et pourtant, elle régule la température de notre corps, le rythme cardiaque, elle sonne l'alerte quand la faim se fait ressentir, elle active la production de la mélatonine au moment de dormir, elle délivre les hormones indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. L'horloge biologique, c'est aussi un terrain de recherche aussi vaste que prometteur et c'est cette spécialité qui en septembre a été récompensée par le prix Nobel de médecine 2017 que se sont partagés trois Américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, trois chercheurs qui ont identifié le gène qui règle le rythme circadien, ce rythme de 24 heures propre à l'animal diurne qu'est l'être humain. Et avec nous en studio, on retrouve le docteur Sylvie Royan-Parola. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Vous avez signé cette année le livre « Prise en charge de l'insomnie » publié par les éditions Elsevier. On retrouve en direct de Lyon le docteur Claude Gronfier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, chercheur en chronobiologie à l'INSERM, vice-président de la Société francophone de chronobiologie. Et on remercie l'équipe de Radio France Lyon qui vous accueille dans ses studios. En deuxième partie de Priorité Santé, nous irons au Sénégal pour retrouver le professeur Amadou Gallo Diop, neurobiologiste, professeur de neurologie et d'épileptologie au CHU de Fan et à l'Université de Dakar. En fin d'émission, nous retrouvons notre bulletin de santé, comme tous les vendredis, avec aujourd'hui à la une le cri d'alarme de l'UNICEF pour les enfants du Kasaï en RDC, le début de l'épidémie de grippe en France métropolitaine, et puis le géant du médicament générique Teva, qui va se séparer du quart de ses employés. Pour nous joindre, le numéro de l'émission, c'est toujours le 33 84 22 75 75.
Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Docteur Sylvie Royan-Parola, l'horloge biologique, elle joue bien sûr un rôle clé pour déterminer le rythme d'activité du corps. On appelle ça le rythme circadien, cycle propre aux êtres humains. Comment justement ce rythme se règle-t-il ?
Il se règle essentiellement sous l'action de ce qu'on appelle des synchroniseurs, c'est-à-dire des donneurs de temps extérieurs qui vont nous permettre de timer en fait l'horloge. Et le principal synchroniseur, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où la lumière alterne avec l'obscurité du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc, on a un rythme de 24 heures qui s'instaure et on a besoin tous les jours de s'exposer à la lumière pour pouvoir recevoir ce message qui nous dit, qui nous donne le top horaire en quelque sorte et qui va permettre à notre horloge de se synchroniser. Ceci étant, il y a d'autres synchroniseurs qui jouent, en particulier chez l'homme des synchroniseurs sociaux où le rôle de l'activité sociale va jouer le donneur de temps aussi. Qui va, si c'est une activité très régulière, comme le travail par exemple, renforcer cette synchronisation. On peut voir malheureusement que parfois le travail peut aller à contre-temps et je pense qu'on va y revenir.
On va y revenir notamment tout à l'heure avec le travail de nuit. On vous retrouve à Lyon, docteur Claude Gronfier. Vous aussi, vous travaillez sur ces fameux rythmes physiologiques, l'incidence de l'horloge biologique sur notre équilibre, sur notre santé, avec justement ce rôle prépondérant de la lumière. Et vous, vous avez mené des expériences justement dans le noir pour comprendre le rôle de la lumière.
Oui, c'est exactement ça, oui. On a mené des expériences dans le noir ou bien d'autres expériences en utilisant différentes lumières. Parce que ce qu'on cherchait à comprendre, c'est qu'est-ce qui, dans la lumière, permet à cette horloge, comme l'a bien expliqué Sylvie, de se synchroniser, de se caler à cette journée de 24 heures. Vous savez que l'horloge est cette structure endogène au cœur du cerveau. Sa vitesse n'est pas exactement de 24 heures. C'est un petit peu comme une montre qui serait qu'on devrait remettre à l'heure tous les jours. Eh bien, notre horloge, elle doit être remise à l'heure tous les jours. Certains individus ont des horloges rapides. Ce sont généralement les couche-tôt-lève-tôt. D'autres ont des horloges un peu plus lentes. Ce sont plutôt les couche-tard-lève-tard. Mais tous doivent être synchronisés à la journée de 24 heures. Et c'est la lumière qui synchronise cette horloge. Et mais quoi dans la lumière? Et les études qu'on a pu mener, ont montré que lorsque la lumière n'est pas en intensité suffisante au cours de la journée, eh bien l'horloge se décale, elle se dérègle. Et elle va se décaler en prenant du retard, surtout pour les couches tard-lève-tard, ou bien en prenant de l'avance pour les couches tôt-lève-tôt. Et ce qu'on a pu aussi observer, et les études ont été menées dans un ensemble de laboratoires, hein, évidemment pas uniquement dans le nôtre à Lyon, c'est que, semble-t-il, c'est la composante bleue de la lumière qui est le mécanisme par lequel la synchronisation s'opère. Et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est cette lumière bleue qui, en activant des cellules très particulières dans notre rétine, va permettre à notre horloge eh bien, d'avoir cette information dont parlait Sylvie tout à l'heure, cette information sur le temps, et qui va finalement caler notre horloge à notre journée de 24 heures.
On va en reparler justement de cette fameuse lumière bleue, en termes par exemple d'hygiène de vie, notamment pour des conseils pour ceux qui regardent énormément d'écrans qui génèrent cette lumière bleue, ce fameux cycle veille-sommeil qui est vraiment déterminant, docteur Sylvie Royan-Parola, pour gérer toute une série d'activités du corps. Par exemple, notre température, cette fameuse température, normalement 37, 37,5, ça change au moment de la journée.
Ah oui, quand on parle de température, c'est pas une constante. Elle a en fait une courbe qui est comme une sinusoïde avec un minimum pendant la nuit, plutôt en fin de nuit, vers 4, 5 heures, 6 heures du matin. Ça dépend effectivement de la typologie aussi. Si on est plutôt du matin ou du soir, la température va être un petit peu décalée. Et puis dans la journée, elle va remonter pour avoir un maximum dans l'après-midi ou dans la fin d'après-midi pour les gens plus du soir. Et donc il y a vraiment un rythme tout à fait identifiable et qui fait d'ailleurs que quand on commence à avoir sommeil le soir, on sent très bien que la température commence à baisser.
Et c'est quelque chose qui se ressent après pendant la nuit de façon encore plus intensive.
Ah bah oui, la nuit effectivement, on a la température baisse beaucoup, même si on peut se réveiller par exemple avec une sensation de chaleur, c'est parfois en fait la température centrale est basse et c'est une sensation uniquement périphérique que l'on a.
Docteur Claude Gronfier, lui aussi, le système hormonal, complètement dépendant de cette horloge biologique, la sécrétion d'hormones régulées en fonction des heures du jour et de la nuit, et ça a une incidence en fait sur toutes nos fonctions vitales, sommeil, digestion, mais aussi la mémoire et la croissance.
Oui, absolument. Ce que la recherche a pu montrer au cours des 15 dernières années, c'est que cette horloge biologique est connectée à un ensemble de structures dans le cerveau, mais aussi en dehors du cerveau, soit via des connexions neuronales, soit via libération d'hormones. Et parmi les hormones qu'on peut citer, évidemment la mélatonine que vous avez citée tout à l'heure est une des hormones qui est importante pour vraisemblablement l'installation du sommeil. Lorsque cette hormone est sécrétée, en parallèle on a une diminution de la température corporelle comme ça vient d'être évoqué par Sylvie. Ces deux mécanismes vont concourir à l'installation du sommeil, l'augmentation de la somnolence et l'installation de ce sommeil pendant la nuit. À l'opposé, on a une hormone qui est le cortisol, qui est une hormone qui, elle, doit être minimale au moment de l'endormissement, parce que cette hormone est plutôt éveillante. C'est une hormone qui est généralement impliquée dans le stress, mais aussi dans la régulation d'un ensemble de mécanismes. Et cette hormone doit être minimale avant le coucher, sans quoi le sommeil ne va pas pouvoir s'installer. Et au contraire, cette hormone va commencer sa libération au milieu de la nuit et va culminer le matin et va être vraisemblablement impliqué dans l'éveil. Un éveil de bonne qualité généralement est associé avec des niveaux de cortisol plutôt élevés.
Docteur Gronfi, il y a des hormones pour tout. Hein. J'ai appris ça en préparant l'émission. Par exemple, ce qui explique qu'on n'est pas trop faim la nuit et par exemple qu'on ait par exemple aussi moins envie d'aller aux toilettes pendant la nuit pour permettre justement de récupérer.
Oui, c'est aussi à ça que sert l'horloge. L'horloge sert finalement à permettre un sommeil de très bonne qualité pendant la nuit et une veille de très bonne qualité pendant la journée. De ce fait, pour permettre un sommeil de bonne qualité, l'horloge va tenter de favoriser toutes ces structures cérébrales impliquées dans l'éveil, va inhiber toutes les structures cérébrales qui sont impliquées dans l'éveil, donc en favorisant le sommeil et en inhibant l'éveil. Et puis elle va aussi veiller à ce que, eh bien, on n'ait pas envie d'aller aux toilettes. Elle va favoriser l'antidurèse ou elle va bloquer la durèse pendant la nuit. Tout ça va concourir à ce qu'on appelle un sommeil consolidé de bonne qualité sans trop d'éveil pendant la nuit.
Docteur Sylvie Royan-Parola, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face à l'horloge biologique ?
Alors, au niveau de l'horloge biologique, eh bien, on est tous sous la commande de cette horloge. Il n'y a pas d'études qui montrent, en tout cas au niveau des gens du matin et du soir, une prédominance chez les hommes ou chez les femmes. Le sommeil est un petit peu différent. Les femmes dorment plus que les hommes, un petit peu plus de sommeil que les hommes. Mais sinon, il y a bien sûr des différences qui sont, pour le coup, non pas dans les rythmes circadiens, mais dans des rythmes infradiens, avec bien sûr tout le côté hormonal de l'ovulation, des règles,
des cycles menstruels, quand la
vie sexuelle hormonale, en tout cas de la femme au moment de la ménopause change, on a un registre qui se rapproche plus du fonctionnement de l'homme. Donc ça, cette dimension-là n'existe pas chez l'homme dans cette hormonologie sexuelle.
Est-ce que ça peut expliquer, là on est plus sur le droit, mais qu'un un certain moment, en tout cas, certaines catégories d'emplois étaient interdites aux femmes la nuit. Est-ce que c'était aussi pour des raisons de santé ou c'était simplement pour des raisons morales ou sociales ? Pour influer peut-être sur la fécondité.
Je pense que oui, il y avait probablement quelque chose en rapport avec cette préoccupation-là, et aussi quand même conscience que, enfin, à l'époque, c'était vraiment les femmes qui s'occupaient des enfants, et donc évidemment, avoir une femme qui travaillait la nuit posait problème.
D'organisation de la vie familiale. Voilà. On va parler justement de cette problématique du travail de nuit. Vous restez avec nous. Nous allons prendre un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et cet auditeur s'appelle Toupou. Il nous appelle de Conakry en Guinée. Toupou, bonjour.
Allô, bonjour.
On écoute votre témoignage.
Bonjour, Calorin. Comme je l'ai dit dans mon commentaire, ça fait 5 mois que je me débrouille dans une société de gardiennage, histoire de joindre les deux bouts. Et de 18h à 6h30 du matin. Cependant, la journée, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors que 2 à 3 heures. Parce qu'avec les études, je n'avais pas l'habitude de dormir la journée. Donc, si je force la situation, parfois j'ai la migraine, mes yeux me font mal. Comme on le dit, ça me pique. Parfois. Donc, j'aimerais savoir, est-ce normal? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles sont les conséquences à la longue?
Docteur Sylvie Royan-Parola Toupou qui s'inquiète pour sa santé à long terme, il a des symptômes, en tout cas de grande fatigue, difficulté de récupération dans la journée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Alors en fait, quand on travaille de nuit, en général, le sommeil de jour est toujours beaucoup plus court que le sommeil qu'on pourrait avoir si on dormait la nuit, pour diverses raisons chronobiologiques, parce que le rythme de sommeil n'est pas fait pour être en longue durée dans la journée, mais aussi parce que les conditions de sommeil, quand on essaye de dormir dans la journée, nous exposent à la lumière, au bruit, à un environnement qui est plutôt problématique, évidemment, pour les conditions de sommeil. Donc, cette privation objective de sommeil qui existe va nécessairement entraîner ce que décrit Toupou, c'est-à-dire la fatigue, les maux de tête, les yeux qui piquent, qui sont vraiment des signes d'insuffisance de sommeil immédiate. Mais à terme, effectivement, ce manque de sommeil va avoir des conséquences, souvent sur le moral déjà, parce qu'il y a une irritabilité, une difficulté à faire les choses et parfois une dépression qui peut s'installer. Et encore plus loin, il va y avoir des conséquences sur le fonctionnement même de l'organisme, à savoir que ça met à rude épreuve tout le système cardiovasculaire, donc il peut y avoir plus d'hypertension, plus de maladies cardiaques. Et même, on a mis en évidence que quand on dormait pas suffisamment avec des rythmes décalés comme ça, il pouvait y avoir même un plus grand risque de cancer ou de baisse de l'immunité. Donc, effectivement, des gens qui attrapent plus facilement des maladies infectieuses ou des cancers.
Docteur Claude Gronfier, est-ce que travailler la nuit, si c'est mauvais pour la santé, est-ce que c'est vrai pour tout le monde?
Alors, c'est une bonne question. Évidemment, non. Les troubles qui sont observés sont plus prévalents chez les travailleurs de nuit que chez les travailleurs de jour, mais évidemment certains travailleurs de jour ont aussi des cancers, ont aussi des troubles du sommeil, etc. Le travail de nuit est l'un des facteurs qui va conduire à l'augmentation de la prévalence de ces troubles. Et tous les travailleurs de nuit ou les travailleurs en rythme posté n'ont pas ces troubles, mais c'est vrai que puisque la prévalence est accrue, il faut prendre garde, comme Sylvie l'a bien expliqué, le travail qu'on a mené à l'ANSES, avec l'ANSES, qui a rendu un rapport en 2016 sur les effets sanitaires du travail de nuit, a bien montré toutes les conséquences qui ont été décrites par Sylvie. Évidemment, suite à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Dans certains cas, on ne va pas interdire le travail de nuit. Il nous faut évidemment des médecins, des infirmières, des personnels médicaux et paramédicaux qui travaillent la nuit pour faire face à des urgences ou soigner des individus, des patients qui sont malades. De la même manière, il faut bien des policiers, il faut bien des militaires. Il y a un ensemble situations professionnelles qui nécessitent à ce que le travail de nuit puisse avoir lieu. Dans d'autres postes de travail, eh bien, le travail de nuit n'est pas nécessairement obligatoire. Fabriquer, que sais-je, un stylo ou un téléphone la nuit n'est pas indispensable. Il faudrait pouvoir évidemment modifier ça. C'est un gros travail qu'il va falloir mener, mais il faut, avant cela, prendre conscience du problème du travail de nuit. L'homme est un animal diurne et n'est pas fait pour travailler la nuit. Quand on ne peut pas l'éviter, eh bien soit, il faut suivre un certain nombre de recommandations, il faut se faire suivre par son médecin du travail quand c'est possible. Je ne sais pas si notre auditeur a la possibilité de le faire.
Je pense que pour Toupou, ce n'est pas vraiment le cas en Guinée, voilà. Qui plus est pour une activité de gardiennage. Justement, docteur Claude Gronfier, s'il y avait un ou deux conseils, peut-être en termes de récupération, de fractionnement du sommeil ou d'alimentation?
Alors c'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. Les conseils qu'on va donner, c'est de manière, ils doivent permettre, s'ils sont suivis, et si les circonstances le permettent, d'atténuer ces effets négatifs du travail de nuit. Le travail de nuit va être associé à une fatigue pendant le poste de nuit. Pour cela, on va recommander d'augmenter l'intensité de la lumière sur le poste du travail. Si c'est possible, on va augmenter l'intensité lumineuse. Ça, ce sera favorable à une meilleure vigilance, une moindre somnolence pendant le poste de travail, et puis une réduction des erreurs ou éventuellement même des accidents du travail pendant la nuit. On va aussi voir pendant le travail de nuit cette somnolence qui va être présente pendant la journée, mais surtout cette difficulté à dormir. L'auditeur a bien évoqué qu'il lui dormait entre 2 heures et 3 heures par jour. C'est évidemment très très insuffisant. On pense que la quantité de sommeil nécessaire à l'organisme pour être en forme, en moyenne, est aux environs de 7 à 8 heures. Donc dormir 2 à 3 heures sera très problématique. Mais comme Sylvie l'a expliqué, on ne peut pas dormir, on peut difficilement dormir pendant la journée. Donc ce qu'on va recommander, c'est de dormir, si possible, assez rapidement après le retour au poste de travail, poste de nuit. Et puis, ne pas éviter de faire des siestes lorsque le besoin s'en fera sentir. L'une des siestes qui sera importante, ce sera la sieste qui prendra place avant le début du poste de nuit. Donc, notre auditeur a expliqué qu'il démarrait son travail à 18h. S'il en a la possibilité, une sieste, par exemple entre 16 et 17h, sera très favorable. Pourquoi ? Parce qu'elle va lui permettre d'éponger un petit peu cette dette de sommeil qu'il aura accumulée.
Des conseils donc pour Toupou en ligne de Conakry. Toupou, excellente journée là-bas en Guinée et bon courage pour la nuit prochaine. On va se retrouver dans 3 minutes avec nos invités, toujours pour parler de l'horloge biologique. Ce sera bien sûr juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et l'on retrouve nos invités pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à l'horloge biologique. Respecter ses rythmes pour vivre aussi en fonction de ses besoins, de ses capacités énergétiques, de ses sécrétions hormonales. Et en cas de trouble de ces rythmes, eh bien, quelles incidences pour la santé? On va aller plus loin sur ce sujet avec vous, docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre, spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. On retrouve à Lyon le docteur Claude Gronfier, neurobiologiste, chercheur en chronobiologie à l'INSERM. Vous êtes dans les locaux de Radio France Lyon. On le disait tout à l'heure en début d'émission, ce sont des travaux sur ce sujet qui cette année ont été couronnés par le prix Nobel de médecine, partagé par 3 chercheurs américains. Docteur Claude Gronfier, les origines moléculaires de cette horloge, à quoi servent ces recherches?
Alors, ce que ces recherches ont permis de mettre en évidence, c'est que la rythmicité qu'on observe dans l'organisme, dans les organismes, aussi bien les organismes animaux que les plantes, que les bactéries, qui sont connues depuis bien longtemps, ont une origine moléculaire. Ce n'est pas simplement le fait qu'on est exposé à la lumière pendant le jour et à l'obscurité pendant la nuit qu'il existe des rythmes. Ce n'est pas uniquement parce que la température chute pendant la nuit et qu'elle augmente pendant la journée qu'on a des rythmes biologiques. C'est parce qu'il existe une machinerie au cœur du cerveau qui agit, qui se comporte comme une horloge. Et ce que ces recherches des 3 receveurs de ce prix Nobel ont permis de mettre en évidence, c'est que, eh bien, c'est par le biais de l'activité de certains gènes, alors on les appelle maintenant les gènes horloges, il y en a entre 10 et 15 qui ont été identifiés, ces gènes vont exprimer des protéines de manière très précise, dans un ordre très précis, et la succession de l'expression de ces protéines, eh bien, va finalement prendre à peu près 24 heures. Et donc, au cœur de chacune des cellules de notre horloge, qui est localisée dans ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui est dans le cerveau, eh bien, la succession de l'expression de ces gènes horloges va permettre l'émergence d'un rythme biologique qu'on va retrouver dans tout l'organisme.
Un rythme important, y compris quand on traite un patient, docteur Sylvie Royan-Parola. Justement, on parle de l'optimisation de ces traitements, ce qu'on appelle la chronopharmacologie ou encore la chronobiologie. Pour bien expliquer aux auditeurs, ça veut dire schématiquement que certains médicaments sont plus efficaces à certaines heures qu'à d'autres, en fonction donc du moment de l'administration. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Ça découle vraiment de ce qu'on a dit, le fait que les différentes fonctions de l'organisme ne sont pas les mêmes. Évidemment, quand on va introduire un médicament, il va arriver dans un état qui va être un petit peu différent selon le moment où l'on va l'absorber, et donc il va avoir un effet différent. Et l'effet le plus caricatural que l'on a pu mettre en évidence, c'est l'effet antimitotique. Donc, qui limite les divisions cellulaires chez la souris, par exemple, avec des anticancéreux. Et selon qu'ils sont donnés le matin ou le soir, on va avoir un effet plutôt positif ou faciliter les effets secondaires et donc éventuellement aboutir à la mort de la souris. Donc, vous voyez que c'est énorme comme chose. Malheureusement, c'est encore insuffisamment étudié, insuffisamment appliqué, et on a encore beaucoup, beaucoup à faire comme travail de recherche pour optimiser les effets des médicaments.
Docteur Claude Gronfier, ça vaudrait même pour des opérations chirurgicales, c'est-à-dire opérer à certaines heures, pour parler trivialement, ça marche mieux que d'opérer, par exemple, en plein après-midi. C'est souvent le cas aujourd'hui. Les opérations sont davantage programmées en fonction, bien sûr, de la disponibilité des équipes. Et là, il faudrait peut-être repenser ça en termes de disponibilité de l'horloge biologique et de l'organisme.
Oui, c'est une très, très bonne question. En effet, il a été... Alors, c'est une très bonne question et pour deux raisons. Un, parce que la raison pour laquelle il faut plutôt prévoir des opérations, des chirurgies ou des actes techniques de très haute technicité pendant la journée... Et que, un, ceux qui vont exécuter ces actes eh bien, seront plus en forme le jour que la nuit. Une très grosse étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 1995 a pu montrer que le nombre d'erreurs médicales commises est beaucoup plus important la nuit que le jour. Et c'est évident, les chirurgiens, les médecins sont aussi eux-mêmes sous la dépendance de leur horloge biologique. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il a été montré, il y a seulement moins d'un mois de cela, que la capacité de l'organisme à se réparer après une agression physique, par exemple, eh bien, elle sera supérieure la journée que la nuit. Pourquoi ? Ben parce que l'horloge biologique va permettre une meilleure restauration de l'organisme, en particulier des plaies, eh bien, pendant la journée plutôt que la nuit.
Docteur Sylvie Royan-Parola, on le voyait à l'instant avec le docteur Claude Gronfier, on est en plein dedans hein, ces recherches. Il y a eu le prix Nobel en septembre, il y a ces dernières découvertes. Quand on suit un petit peu l'actualité de la médecine, on voit qu'il y a tout un tas de terrains de recherche lancés. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu étonnant comme question, mais pourquoi maintenant ?
En fait, c'est pas tant pourquoi maintenant, parce qu'en fait, la chronobiologie, ça existe depuis les années 60.
Parce qu'on s'y intéresse davantage ?
On s'y intéresse davantage et les travaux des chercheurs qui ont été récompensés, c'est des travaux qui sont déjà un peu anciens, enfin c'est pas tout récent. Et c'est vrai qu'on a du mal à se représenter intellectuellement qu'est-ce que c'est que cette dimension temporelle qui va finalement beaucoup marquer notre résistance aux maladies ou au contraire notre fragilité. Et ça, c'est des études longues parce qu'il faut faire des mesures qui sont répétées avec beaucoup de dosages. Donc c'est compliqué la chronobiologie. Mais on voit bien que c'est un champ médical qui va s'ouvrir et qui est énorme pour les années futures.
Alors cette question, elle touche vraiment la vie quotidienne, notamment pour tous ceux, toutes celles qui voyagent. C'est le cas particulier d'un autre auditeur que nous avons en ligne, c'est Jacques. Bonjour Jacques. Jacques en ligne, peut-être avec un petit décalage. On vous écoute Jacques ? Ben, trop de décalage. En tout cas, j'ai le message que Jacques a communiqué à l'équipe de Priorité Santé sous les yeux. Il vit d'habitude en Malaisie et il a, quand il rentre en France, un décalage horaire de 7 heures. Il voudrait justement des conseils pour s'adapter. On parlait tout à l'heure du travail de nuit. Toutes les personnes qui voyagent, d'ailleurs les personnes aussi qui travaillent par exemple dans l'aéronautique, subissent ces décalages au quotidien. J'imagine qu'ils ont des règles de vie, des règles d'hygiène justement, pour faire face à tous ces changements, docteur Sylvie Royan-Parola ?
En fait, on va dans les voyages aériens avec décalage horaire fonctionner un peu différemment selon que le voyage est court, c'est-à-dire sur 3 jours par exemple, avec un aller-retour Paris-New York très bref. À ce moment-là, on va plutôt demander à la personne d'essayer de rester sur son rythme de départ. En revanche, si elle part une huitaine de jours ou bien sûr en vacances, ou si elle retourne dans son lieu après un décalage horaire, là, il faut vraiment se mettre tout de suite à l'heure du pays et jouer avec deux choses qui sont la lumière et l'activité physique pour favoriser le recalage en sachant les propriétés de la lumière. C'est-à-dire que si vous prenez de la lumière naturelle hein, en fin d'après-midi, vous allez repousser l'endormissement. Si au contraire vous vous exposez à la lumière le matin, vous allez avancer le réveil. Donc la lumière va jouer un peu le rôle de changeur de curseur, enfin ça le pousse d'un côté ou de l'autre, donc il faut savoir l'utiliser, et donc à l'inverse, utiliser plutôt, mettre des lunettes noires pour se protéger du soleil dans les horaires où il ne faut pas justement favoriser le décalage. Ça, c'est un moyen tout à fait simple. Il peut y avoir aussi l'utilisation de la mélatonine dans certains cas pour se synchroniser.
Il existe justement des formes synthétiques de la mélatonine.
Tout à fait, mais il faut le conseil d'un médecin pour ne pas se tromper quand on va dans le sens ouest-ouest, ce n'est pas les mêmes horaires de prise.
En tout cas, docteur Royan-Parola, Jacques était à l'écoute pour votre réponse. Jacques, vous avez entendu justement jouer sur la lumière, éventuellement jouer sur ce que vous absorbez avant de dormir pour un petit peu rééquilibrer tout ça.
Je vous ai bien compris, je vous remercie.
Merci.
Je sais pas si vous m'entendez.
On vous entend très bien cette fois. Ravi d'entendre votre voix. Jacques, excellente journée. Et on va prendre maintenant la direction du Sénégal pour retrouver sur place le professeur Amadou Gallo Diop. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes neurobiologiste, professeur de neurologie, d'épileptologie au CHU de Fan à l'université de Dakar. Vous le constatez hein, lors de vos consultations, professeur Gallo-Diop, ne pas respecter le rythme de sommeil, ça a vraiment des conséquences néfastes pour la santé.
Ah oui, et de plus en plus. C'est les adultes et les enfants, et nous, notre rôle, c'est surtout les enfants, parce qu'ils sont en développement, ils sont à l'école, en apprentissage, et on voit de plus en plus des conséquences néfastes de la réduction de leur temps et de la qualité de leur sommeil, involontaire de leur tâche, parce que c'est la faute des adultes. Et je pense que bon, c'est un phénomène mondial, l'Afrique est concernée par le fait que les humains, depuis plus d'un siècle, on peut dire, ont prolongé les journées par la création, premièrement, de la lumière artificielle, et deuxièmement, de plus en plus, par les écrans, donc cellulaires, tablettes et les ordinateurs, ce qui fait que la durée du sommeil est réduite. Et un enfant qui dort moins de 8 heures par nuit, à terme, va accumuler des dettes de sommeil, et avec des conséquences médicales que mes deux confrères viennent de citer, et de plus en plus des conséquences sur le plan scolaire, retard, échec scolaire, dû à des problèmes de mémorisation, de concentration, de fatigue et autres.
D'où une nécessité de prise de conscience des différents corps éducatifs, qu'il s'agisse d'ailleurs des parents ou du milieu scolaire. Justement, professeur Amadou Gallo-Diop, vous avez mis en place un programme hygiène de vie et scolarité pour sensibiliser les élèves. De quoi s'agit-il exactement?
Depuis 15 ans, par des cycles de conférences et débats, nous nous rendons dans des établissements public ou privé, universitaire ou l'école primaire, et nous discutons avec le corps enseignant, les parents, les élèves, et nous expliquons en des mots simples comment fonctionne notre cerveau, quels sont ses besoins. Nous insistons particulièrement sur le temps de repos, sur la chronobiologie pour montrer que les apprentissages les plus importants, et ça concerne les ministères de l'Éducation nationale. Nous avons déjà fait un atelier avec le ministre de l'Éducation nationale et les instructeurs d'académie pour qu'on revoie les agendas scolaires. Il faut programmer les choses les plus importantes entre 8-9 heures du matin jusqu'à midi, faire des pauses toutes les 2 heures, ne rien programmer comme enseignement lourd ou examen entre 13h et 14h30, parce que le cerveau est en mode de relaxation. Et puis après, il y a un deuxième pic d'attention l'après-midi, mais qui est moindre que celui du matin. Donc ça implique une réflexion profonde impliquant les parents, les enseignants, l'éducation nationale, pour qu'on cale les programmes scolaires, examens et autres, au rythme neurobiologique qui caractérise les hommes, qui sont des animaux diurnes, devant fonctionner le jour et se reposer la nuit. Et donc, à travers ces cycles de conférences, nous suscitons des débats et il y a des établissements qui ont pu revoir leur programme, prévoir des petites pauses en fin de matinée et on en voit les résultats. Les élèves sont en fait favorisés, nonobstant du fait que certains enfants prédisposés, il y a des prises en charge particulières à avoir pour ne pas, par exemple, les mener vers des souffrances médicales, dont l'épilepsie, qui est une des choses possibles chez les enfants prédisposés quand ces accumulations de dettes de sommeil deviennent catastrophiques, disons.
Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo-Diop. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste, professeur au CHU de Fan et à l'Université de Dakar. On l'a bien compris, docteur Sylvie Royan-Parola, il faut écouter son corps, écouter ses rythmes, et ça donne envie de dire que finalement, l'organisme, il aime bien sa routine.
Oui, le fait qu'il y ait une horloge, ça veut bien dire qu'il faut une régularité. Et la régularité, malheureusement, on la voit beaucoup malmenée actuellement, où de plus en plus se passe ce que l'on appelle le jet lag social, c'est-à-dire que dans la période de travail, les gens sont à peu près réguliers au niveau des horaires de coucher et de lever. Et le week-end, on les voit switcher, se couchant beaucoup plus tard, se levant beaucoup plus tard.
Avec le fameux mythe de la grasse matinée.
Voilà, et la grasse matinée, quand c'est 4-5 heures en plus, ça va pas du tout, parce qu'en fait, ça stresse complètement notre organisme, et on se sent beaucoup plus fatigué le lundi et le mardi que si on avait eu un rythme, même avec un petit décalage d'une heure, une heure et demie le week-end, mais pas les 4-5 heures que certains choisissent maintenant.
Fameuse pression sociale, aussi la pression technologique. Docteur Claude Gronfier, tout à l'heure vous soulignez les effets bénéfiques de la lumière bleue quand on veut se réguler à nouveau. Mais à l'inverse, qu'on voit plutôt aujourd'hui dans les maisons, c'est les effets néfastes de cette lumière bleue, des écrans allumés beaucoup trop tard, partout et surtout à tous âges.
Oui, c'est exactement ça. Autant la lumière est complètement indispensable pendant la journée et elle va favoriser la synchronisation de notre horloge et notre éveil, autant une exposition trop tard le soir ou trop tôt le matin, on pourrait observer la même chose, sera défavorable. Ce que les études ont montré, c'est que l'utilisation des écrans sera grande le soir et plus la dette de sommeil y sera associée. Et c'était très surprenant, les premières études qui ont mis ce résultat en évidence étaient très étonnante parce que on pensait encore il y a 4 ou 5 ans que les niveaux de lumière nécessaires pour perturber le sommeil, perturber l'horloge, devaient être au moins d'une centaine de lux. 100 lux, c'est à peu près l'intensité lumineuse qu'on a dans sa cuisine le soir en hiver. Et donc on pensait qu'il fallait ces niveaux-là. Or, ce que la recherche a montré, c'est que avec des niveaux beaucoup plus faibles, tels que ceux qui sont émis par les écrans, des téléviseurs, des ordinateurs ou des tablettes et des smartphones, eh bien ces intensités faibles, qui sont de 20 ou 30 lux, sont suffisantes pour avoir un impact négatif sur notre sommeil et notre horloge biologique.
Par contre, lire un livre avec l'éclairage d'une lumière ordinaire, c'est bien, mais même si c'est LED, finalement, remplace aussi les lampes traditionnelles. Est-ce que c'est la même chose quand on a une ampoule LED à son chevet que d'avoir une lumière bleue sur son écran ?
Alors c'est la bonne question, évidemment. Ce qui compte, finalement, c'est la lumière à laquelle on est exposé. Si on lit un livre avec une intensité de lumière forte, eh bien, on aura les mêmes effets que ceux qu'on aura si on lit un livre sur une tablette ou un ordinateur. Évidemment, ce qu'il faut favoriser, c'est un éclairage moins riche en lumière bleue le soir. Et on trouve maintenant des LED ou des lampes fluorescentes qui sont de couleur chaude. Et en général, pas toujours, mais en général, choisir une lampe de couleur chaude sera plutôt favorable à l'endormissement, alors qu'une lumière de couleur froide y sera défavorable, qu'elle soit d'origine LED ou d'origine fluorescente. Ce n'est pas tant la technologie que la qualité de la lumière qui est émise par l'ampoule.
Alors, une dernière question, docteur Claude Gronfier, on arrive à la conclusion de ce sujet. On a peu parlé des effets, justement, de l'horloge biologique sur les troubles de l'humeur, même si on a dit quand on dort mal, forcément, on se réveille de mauvaise humeur, mais même y compris sur la dépression, voire des troubles bipolaires.
Oui, il y a une très jolie étude qui vient de sortir, qui vient d'être publiée, là, je crois, il y a quelques jours, et qui montre que chez les patients souffrant de dépression bipolaire, la luminothérapie, cette exposition à la lumière qui est très utilisée pour traiter des dépressions saisonnières et qui est aussi efficace pour traiter d'autres dépressions non saisonnières, les patients bipolaires vont trouver une efficacité très élevée de cette luminothérapie qui ne sera pas nécessairement donnée le matin, comme c'est le cas pour certains troubles affectifs, mais qui sera éventuellement donné entre midi et 14 heures. Donc oui, la lumière pourra être utilisée pour traiter des troubles affectifs.
Docteur Sylvie Royan-Parola, toute dernière question. Tout à l'heure, le professeur Amadou Gallo-Diop évoquait les enfants. Horloge biologique, même peut-être particulière pour une catégorie spécifique, ce sont les adolescents qui ont des meilleurs rythmes d'apprentissage à des horaires très particuliers.
Les adolescents, en fait, ont tendance à se décaler Et effectivement, on a une vraie problématique, c'est que notre société favorise un peu ce décalage avec les habitudes sur les écrans, les activités le soir, qui renforcent encore ce décalage. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que les adolescents se lèvent trop tôt. Aux États-Unis, par exemple, ils peuvent prendre certains cours à 7 heures du matin, ce qui est vraiment pas du tout dans leur rythme. Et il y a des études qui ont montré que quand on décalait un petit peu l'horaire de début de l'activité des adolescents au lycée, on avait des meilleurs résultats scolaires. Alors sans aller dans des décalages qui sont vraiment importants, il faut vraiment faire attention à ce qu'un adolescent, s'il doit se lever à 5h30 ou 6h pour prendre un quart, ça va être un vrai problème. Et là, il faut réfléchir en termes de société pour modifier les horaires de cours.
Laissez-les dormir, docteur Sylvie Royan-Parola. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychiatre, vous avez signé le livre Prise en charge de l'insomnie aux éditions Elsevier. Merci docteur Claude Gronfier en direct de Lyon. Merci à nos confrères de Radio France pour vous avoir accueilli dans leur studio.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour notre tour d'horizon de l'actualité médicale et sanitaire de la semaine écoulée. Un rendez-vous que nous vous donnons chaque vendredi avec à la une de ce bulletin de santé du 15 décembre. Plus de la moitié de la population mondiale privée d'accès aux services de santé élémentaires. C'est ce que pointe l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport publié mercredi. Un document élaboré conjointement avec la Banque mondiale dont le président souligne l'urgence de créer une couverture sanitaire universelle. Médecins sans frontières alerte, chiffres à l'appui sur le sort des Rohingyas d'après l'organisation humanitaire qui a travaillé dans des camps de réfugiés au Bangladesh. 6700 au moins de ces civils musulmans de Birmanie ont été tués dans leur région d'origine, l'état de Rakhine, entre la fin août et la fin septembre. Parmi eux, on compte 730 enfants de moins de 5 ans. MSF dénonce des actes de violence à grande échelle menés par l'armée birmane, par la police et par des milices locales. Plusieurs organismes s'alarment d'une catastrophe humanitaire qui s'annonce pour la République démocratique du Congo. L'Office des migrations internationales pointe que le pays réunit plusieurs caractéristiques qui laissent craindre une crise de grande ampleur pour l'année qui s'annonce. Déplacement record de population, ONG sous-financée, État sans moyens. Et l'UNICEF partage ses inquiétudes, en particulier au sujet du sort des plus jeunes. 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère dans le Kasaï, cette région ravagée par la violence au cours des 18 derniers mois. Léonard Vincent.
Ce sont des enfants qui, sans assistance, vont mourir. Voilà le constat terrible dressé dans le Kasaï par l'UNICEF, qui est d'autant plus inquiète que l'année passée a été largement sous-financée. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance n'a en effet reçu en 2017 que 15% du financement nécessaire pour fournir des soins nutritionnels et thérapeutiques dans la région. La raison de ce désastre est connue, le déplacement de milliers de familles qui ont survécu pendant des mois en brousse, dans des conditions très difficiles, explique Yves Villemot, le responsable de la communication de l'UNICEF en RDC. Et l'ampleur réelle du problème se précise à mesure que les gens rentrent chez eux, explique-t-il, à la faveur d'une accalmie dans la violence depuis le mois d'août. Incapables de cultiver leurs terres, ayant perdu les saisons de plantation de l'année écoulée, les populations doivent également faire face à l'absence de 220 centres de santé détruits, pillés ou endommagés. L'UNICEF souligne enfin l'urgence pour les familles revenues dans leur village d'accéder rapidement à des services de santé, faute de quoi, à la fin, pourraient s'ajouter bientôt des maladies transmissibles comme la rougeole.
Léonard Vincent. Une épidémie de choléra dans la capitale zambienne, Lusaka. L'OMS a recensé 15 morts, 547 malades sur place. Une épidémie qui risque de s'aggraver puisque la saison des pluies ne fait que commencer dans l'état d'Afrique australe. Autre continent, autre épidémie et une vaste campagne lancée contre la diphtérie en Indonésie où 8 millions d'enfants sont vaccinés cette semaine. 600 cas de la maladie infectieuse avaient été recensés dans l'archipel et 32 décès enregistrés. Une résurgence de la diphtérie que les autorités sanitaires attribuent à une baisse de la sensibilisation, également au discours anti-vaccinal qui accourt également dans le pays asiatique. La grippe est entrée en phase épidémique en Île-de-France, annonce hier de Santé publique France, alors que déjà 8 des 12 autres régions métropolitaines sont en phase pré-épidémique. Après la France, ce sont les Pays-Bas qui ont procédé au retrait de la vente de lait infantile. Le géant de l'agroalimentaire français Lactalis avait rappelé 12 références de lait pour bébé après la contamination par des salmonelles de 20 nourrissons de moins de 6 mois. Le gouvernement a publié d'ailleurs dimanche dernier une liste de plus de 600 lots interdits à la consommation comme à l'exportation. La France, qui accueillait mardi le sommet climat pour relancer le chantier issu de la signature il y a 2 ans de l'accord contre le réchauffement de la planète après la COP21, engagement fragilisé, vous le savez, par le retrait de l'accord des États-Unis à l'initiative de Donald Trump. Une cinquantaine de pays et des financiers se sont donc retrouvés à Paris cette semaine et doivent maintenant formaliser leurs engagements respectifs. C'est l'aboutissement d'une attente des défenseurs de l'environnement. Les États membres de l'Union européenne ont adopté mercredi à Bruxelles un nouveau texte pour définir les critères des perturbateurs endocriniens, ces composés qui entrent dans la fabrication de cosmétiques ou de jouets et qui peuvent agir sur le système hormonal. Ce projet doit donc encore être validé par le Conseil comme par le Parlement européen, avec l'espoir de voir des critères appliqués courant 2018. Et puis pour conclure, un plan social de grande envergure qui concerne le numéro 1 mondial des médicaments génériques, l'Israélien Teva. L'entreprise va supprimer 14 000 emplois dans le monde au cours des 2 prochaines années. Cela représente le quart des effectifs de l'entreprise. Teva en grande difficulté financière, une dette de 35 milliards de dollars après des rapprochements malheureux, une chute des prix des génériques et la perte du monopole d'un médicament particulièrement rentable pour traiter la sclérose en plaques, un médicament désormais commercialisé comme générique. C'est la fin de notre bulletin de santé. Restez avec nous sur RFI. Et Priorité de santé touche à sa fin. Lundi, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous allons parler des maladies de l'exil, de leur prise en charge. Alors si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. Priorité santé à réécouter, bien sûr, sur le site rfi.fr. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.